MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous vous encourageons « Redonne vie à ton couple ». On va parler à tous les couples qui sont en détresse, en difficulté, mais aussi à tous les couples qui vont très bien. Et on va faire de la prévention pour que ça continue à aller très bien. Et si vous êtes célibataire et vous nous suivez, eh bien cette émission est aussi pour vous parce que les conseils, vous pourrez les mettre en pratique lorsque vous serez à votre tour en couple. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nadine et Frank pour cette émission. Bonjour
hello
à tous les
Yveline.
Deux.
Hello Yveline, hello
bonjour.
Frank.
Ça s'arrête là ? Aujourd'hui, cette semaine, Frank est tout calme.
Il est calme, calme, calme.
Tout calme. Moi, j'attendais quelque chose de plus.
Hier, il a promis, en tout cas, que les gens devaient se connecter à cette émission.
C'est ça, c'est Frank le romantique. Non, il n'a pas promis, il a dit...
Il a dit, connectez-vous, vous ne voulez pas manquer ça.
Ouais.
Ah.
J'ai pas dit ces mots.
Bon,
mais
bref,
si,
dans ces eaux.
Textuellement. Et Frank, pourquoi les gens devaient se connecter aujourd'hui ? Que vas-tu faire ?
Parce que j'ai une super rubrique. Ça va être vraiment exceptionnel.
C'est parfait. Frank fera une rubrique couple et relations. N'attends pas qu'il soit trop tard pour démontrer ton amour. Et le titre est génial.
Comment t'as trouvé, Nadine, ouais.
Écoute,
introduction?
C'était... J'ai aimé le... C'est le gestuel qui m'a...
Ouais, la gestuelle.
Donné,
ça,
là.
C'était donné. Excellent.
T'as
c'était excellent. Donc aujourd'hui, des conseils pratico-pratiques pour le couple, un encouragement pour tous ceux d'entre vous qui regardez cette émission et vous n'avez pas vraiment envie de rire avec nous, parce que vous passez par des temps très difficiles et vous avez vraiment besoin, pour le coup, que le Seigneur redonne vie à votre couple. Eh bien, accordez-vous avec nous, on s'attend vraiment à ce que Dieu fasse quelque chose de surnaturel dans vos couples et on commence cette émission avec la pensée du jour.
Alors qu'on parle de redonner vie à son couple, je me suis dit, en fait, la réflexion, en fait, que lorsque notre couple commence à aller mal, lorsqu'on sent que, voilà, les disputes, les incompréhensions se multiplient et on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche, en fait, on ne se rejoint plus, on ne se comprend plus, le premier endroit où l'attaque va arriver, ça va être dans nos pensées. Dans nos pensées, dès qu'on accepte le fait que non, notre couple est en train de mourir, ben le couple va mourir en fait. Mmh. Tout commence d'abord par notre perception, par nos pensées, par l'attitude que nous avons par rapport à une difficulté, par rapport à une situation. Parce que dans les couples, chaque couple va traverser des hauts et des bas. Et des fois, les bas que certains vont traverser sont moins pires que vos bas à vous, sont même plus pires que vos bas à vous. Mais eux, ils ont réussi à survivre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une attitude, ils avaient une disposition de cœur où ils se disaient « on va traverser cette tempête ». Ensemble et on va s'en sortir. Et vraiment, pour avoir accompagné plusieurs couples, je me rends compte que des fois, l'endroit où ça commence d'abord à aller mal, ça va être dans notre perception de l'autre. Si déjà on accepte la pensée que ça ne va pas, on accepte la pensée qu'on va se séparer, on accepte la pensée qu'on n'a rien en commun et que ça ne vaut plus la peine de se battre, ça ne vaut plus la peine de chercher des solutions, ben, du coup, ça va commencer à se dégrader. Et petit à petit, comme ça, on va se rendre compte que ça meurt. Mais ça meurt parce que ça vient confirmer ce que nous, déjà, dans nos pensées, on avait accepté. Et vraiment, ma pensée aujourd'hui est de vous encourager à refuser cette pensée que votre couple va mourir. N'acceptez pas ce mensonge que l'ennemi vous met dans votre cœur, que c'est fini, que ça ne vaut plus la peine, que c'est trop irrécupérable. La Bible va dire dans Philippiens 4, verset 8, et c'est avec ce verset que je vais vous encourager. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées, c'est la version seconde 21, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et vraiment, ce verset est en train d'encourager à porter notre regard, porter notre pensée vers certaines choses. Et c'est ce que je veux vous encourager aujourd'hui. Portez votre pensée vers ce qui est bon par rapport à l'autre. Lorsque vous le regardez, lorsque vous regardez votre épouse, vous regardez votre époux et vous n'avez que des frustrations, arrêtez tout de suite dans vos pensées. Je veux penser à ce qui est bon. Je veux me rappeler comment c'était au début. Et des fois, c'est se rappeler notre première conversation où on a senti qu'il y avait quelque chose de différent. Se rappeler notre premier rendez-vous. Se rappeler des bons moments, en fait. Parce que des fois, lorsque nos pensées sont attaquées, même notre souvenir de notre relation va nous être volé. Tout d'un coup, une personne va se dire, mais en fait, peut-être que je m'étais trompée, peut-être qu'au début, je sentais aussi que je devrais peut-être me marier avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, même dans notre souvenir, c'est comme si on n'a plus de souvenirs des bons moments alors qu'on a fait le choix d'être avec cette personne-là. Et c'est là qu'on se rend compte que l'ennemi nous a vraiment attaqués, qu'il est même venu voler le souvenir que nous avions dans notre relation. Donc, vraiment, rappelez-vous de ce premier amour. Rappelez-vous de ces premiers moments. Rappelez-vous de pourquoi vous avez choisi cette personne. Pourquoi de tous les hommes, c'était lui qui était votre homme. Pourquoi de toutes les femmes, c'est elle qui était celle que Dieu avait destinée pour vous. Lorsque vous allez vous en rappeler, vous allez commencer à le repasser dans votre cœur. Donc, quand la frustration vient et l'incompréhension veut vous dire « lâche-le, lâche-la », vous repassez dans votre cœur. Non, c'est lui que mon cœur aime. C'est elle que mon cœur aime. Seigneur, merci parce que tu me donnes maintenant la capacité de régler ces problèmes-là. Mais déjà de base, si dans votre cœur, dans vos pensées se tournent vers ce qui est bon, ça va vraiment vous aider à redonner vie à votre couple. Parce que comme j'ai dit, les problèmes, tout le monde peut en avoir. C'est vraiment notre capacité à nous de les traverser. Et si on les traverse avec le Seigneur, c'est sûr et certain que la victoire est de notre côté.
Amen. Merci Nadine. Oui, on est tous les trois mariés et puis on a déjà tous vécu des moments plus difficiles, des moments où il y a des incompréhensions, il y a des problèmes de communication et des fois c'est plus difficile que d'autres et des fois ça dure plus longtemps que d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'on passe par des moments difficiles qu'on doit rester dans ces moments et qu'on est censé creuser de plus en plus profond. Il y a un moment donné où il faut faire un constat, il faut s'arrêter et il faut se dire « ok, là stop, on est en train de descendre de plus en plus, il faut s'arrêter là ». Plus on essaye en fait de se faire justice, plus on essaie d'expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, et plus on creuse, on s'arrête et on revient juste à la source, on revient au départ. Et j'ai un verset à vous partager. Je crois que ce verset donne une clé essentielle pour la réussite des relations en général, mais particulièrement d'un couple. Il s'agit de Philippiens 2, au verset 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » Ce verset, je le trouve extrêmement pertinent dans le cadre du couple. On en parle souvent dans les relations en général, mais dans le cadre du couple, il est tellement important. J'aimerais m'arrêter sur le fait de ne pas regarder ses propres intérêts, mais regarder les intérêts de l'autre, considérer les intérêts de l'autre. Ça fait tellement la différence quand dans le couple, on n'est pas centré sur soi, mais on considère l'autre, les besoins de l'autre, les attentes de l'autre. Et on n'est pas toujours en train d'essayer de penser à moi. Bien sûr, c'est censé être réciproque. Oui. L'autre, à son tour, pense à mes intérêts, à moi. Et donc, en fait, il y a une espèce de réciprocité, un échange qui va se faire, qui va faire que les besoins de l'un et l'autre vont être comblés, qu'on va communiquer de façon appropriée et qu'on va toujours chercher à ce que la paix règne dans la maison. Il y a une incompréhension, tu as dit quelque chose qui m'a blessée, qui m'a froissée, comment est-ce qu'on peut régler ça? Quand tu as dit ça, ça m'a fait ça. Moi, voici ce que je comprends quand tu dis ça. Qu'est-ce que tu voulais dire réellement? Au lieu d'interpréter ce qui est dit. Et il y a tellement de choses qui peuvent se régler par une communication appropriée, une communication qui cherche l'intérêt du couple et pas son intérêt personnel, pas avoir raison à démontrer qu'on sait les choses. Et ça, ça va faire toute la différence.
Absolument. Moi, j'aime quand tu as dit de ne pas considérer ses propres intérêts, mais de considérer ceux des autres. Et je me dis, on est tous allés à l'école. Et à l'école, il y avait des matières que tu aimais moins, qui étaient moins, c'était moins accessible pour toi. Mais parce que tu devais réussir ton année scolaire, tu t'appliquais à ces matières-là. Tu étudiais et tu te préparais pour pouvoir réussir tes examens.
Et c'était dur.
Et c'était dur, mais tu passais à travers. Oui. Et je crois que des fois aussi, dans des saisons difficiles dans notre mariage, on doit aussi prendre la décision d'étudier l'autre. Des fois, il y a beaucoup de manque de communication parce que je ne sais pas comment parle l'autre. Comment est-ce que l'autre perçoit les choses? Moi, quand je parle comme ça, voici ce que j'ai voulu dire. Mais l'autre, comment est-ce qu'il l'interprète? Et prendre la décision, quand on parle de redonner vie à son couple, c'est aussi de prendre la décision, est-ce que je connais l'autre réellement? Parce que des fois, on s'est rencontrés, on s'est aimés, mais je n'ai pas pris le temps de savoir ton caractère, ta personnalité, les phrases qui, pour toi, sont des phrases qui sont blessantes, des mots. Il y a des gens, il y a des mots que, du coup, tu le dis, ça le met dans une position, soit il va se mettre sur la défensive, ou bien il va se retirer, donc émotionnellement, il n'est plus disponible, etc. Donc, de se dire, notre mariage, l'autre, il est comme ma plus grande matière scolaire, voilà. Je vais l'étudier, je vais apprendre à le connaître, à la connaître, savoir comment il est, et ça va vraiment nous aider dans la communication, parce que des fois, il y a beaucoup de frustration. parce qu'il y a des non-dits, oui. mais des frustrations aussi parce qu'il y a des choses qui sont mal dites,
mal interprétées,
etc. Et ça fait comme ça, ça s'envenime. Et c'est là qu'on arrive que dans nos pensées, on se dit, c'est plus la peine. Mais vraiment de prendre cette décision-là. Et un autre conseil, alors qu'on parle de redonner vie à son couple, c'est vraiment, c'est terre à terre, hein, mais de ne pas faire chambre à part.
Mais oui,
ça, c'est vraiment un truc vraiment. Tellement important. Parce que lorsqu'on a la première dispute, moi je vais dormir là. Ouais. Ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Je crois
Tellement.
Que ça vient juste envenimer, ça n'arrange jamais.
Non.
Jamais tu t'es dit, je vais dormir au salon, puis le lendemain matin, tu te réveilles avec beaucoup d'amour. Tu vas te réveiller avec mal au dos et plus énervé encore exact. Parce que dans la nuit, le diable va venir t'aider à vraiment bien aller dans tes pensées et de pire en pire.
Tu nourris ta colère.
Et vraiment, c'est des trucs des fois qu'on fait parce que dans les films, on voit les gens, ils claquent la porte, ils vont dormir ailleurs, mais ne fais jamais ça. Vous êtes un nouveau couple, vous êtes là, vous êtes mariés, vous êtes heureux, vous êtes dit, nous, ça va bien aller. Au bout de 3 mois de mariage, vous avez votre première dispute. Ne va pas dormir au salon, ne va pas dormir dans une autre pièce, dans une autre chambre, dans la chambre d'invité. Dormez dans le même lit, c'est le lit conjugal, c'est votre endroit. Vous allez dormir. Demain matin est une autre journée. Peut-être que vous n'avez pas tout réglé aujourd'hui, mais il y a des bases aussi qu'on doit se donner pour se dire, ça va nous aider en fait. Il y a des mécaniques comme ça que je me suis dit, bon, nous-mêmes, quand on n'est pas content, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne va pas s'insulter, on ne va pas se crier dessus, on ne va pas faire chambre à part. C'est des choses de base, mais ça nous aide après pour la suite.
Ça serait un cas extrême. Je n'avais jamais même pensé pas dormir dans le même lit que Nadia. C'est un cas extrême quand même.
C'est un cas extrême.
Ça m'a fait réfléchir, c'est pour ça.
Mais elle a raison, dans les films, on voit beaucoup ça.
Je sais, mais
c'est
depuis quand les films sont nos écoles. Mais je comprends absolument les filles. Et donc, je fais juste ramener ça terre à terre. Depuis quand est-ce que les films doivent nous dire comment on doit agir?
Amen.
Et une autre réalité, parce que tu parles de... en tout cas, de ce que ça va créer, le fait de faire ça, parce qu'absolument, il y en a beaucoup qui certainement l'ont déjà fait. Mais d'appliquer et de revenir à ce que dit la parole, autant que possible, que le soleil ne se couche jamais sur votre colère.
Oui.
Et ça, ça peut sembler simple et banal d'être dit comme ça, mais d'appliquer cette règle va sauver énormément de choses.
Amen.
Parce que le plus que tu vas demeurer dans ta colère, dans ton incompréhension, le plus ça va comme la gangrène, ça va pourrir, ça va amener toutes sortes de choses néfastes, négatives, qui ne devraient jamais être là, et de régler ça au plus vite, c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est d'être clair avec son conjoint, de dire, je ne veux plus jamais qu'on se couche en colère. Oh! Là, il y en a qui vont dire, t'es fou, Frank! C'est pas possible! Je te mets au défi.
Ouais.
Applique ça dans ta vie. Applique-le. Et vois ce que Dieu va faire. Ça va demander d'être... Tantôt, tu as dit, là, d'étudier avant. Moi, c'était dur d'étudier. Et pour certains, ils pensaient se marier et que ça allait être merveilleux et facile dès le début et qu'ils n'ont jamais entendu cette notion de devoir comprendre forcément comment je peux aimer l'autre, comment est-ce que je devrais... Ils pensaient que tout ça allait se faire naturellement. Il y en a, vous me suivez et vous dites, « Ouais, j'ai pensé ça. » Mais là, aujourd'hui, tu en ris parce que tu te dis, « Mais c'est tellement pas comme ça.
»
Mais au début, ça va être plus compliqué d'entrer dans ces notions-là parce que tu n'as peut-être jamais vu tes parents faire ça, agir comme ça, ni même s'aimer l'un l'autre. Ils se sont endurés toute la vie. Et là, toi, tu fais face à un défi. Mais aujourd'hui, même si ce n'est pas facile, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Et il faut vraiment protéger ça. Il faut être intentionnel. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est une vie de couple bénie, heureuse, en bonne santé.
Amen.
C'est sa volonté.
Oui.
Mais ça demande de l'effort.
Oui.
Et ça ne va pas y arriver tout seul. Ça ne va pas nous tomber dessus. Il faut être intentionnel à tous les jours. Et ça, c'est toute la vie. C'est comme un marathon.
Ouais. Et ce que je voulais juste rebondir avant que tu fasses ta rubrique, Frank, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi une décision de maturité quand tu dis « je ne veux pas dormir sur ma colère ». Parce que des fois, l'autre, il n'a rien fait pour apaiser ta colère, pour elle n'a rien fait pour te demander pardon. Des fois, le conflit n'est pas réglé. Donc, c'est toi, une fois que tu as verbalisé ce qui te dérange, de dire, tu sais, tu m'as dit tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas apprécié. Mais toi aussi, du coup, on a fini de parler de ça, on continue. Donc, on devait manger ensemble, on va manger ensemble, on va regarder le film, on va aller prendre notre marche, on va continuer à vivre notre vie de couple. C'est moi qui prends la décision de ne pas rester sur ma colère aussi et ne pas attendre. Des fois, on attend l'autre pour descendre, mais c'est nous qui prenons la décision. Et ça nous amène au verset du jour dont à parler, c'est vraiment cette humilité qui dit que si Dieu l'a dit, ça veut dire que les principes de Dieu sont bons. Mon émotion, ma chair me dit reste en colère, mais Dieu me dit que la colère, le Seigneur ne se couche pas sur ta colère. Donc du coup, par humilité, je vais mettre en pratique la parole de Dieu.
Exactement. Et bien sûr, on est conscient que d'un certain couple, il y a des situations aussi où vraiment l'un des conjoints ne participe absolument pas à fortifier, à solidifier le couple, va faire tout et son possible pour nous briser, pour nous détruire. Ce sont des cas extrêmes. Les conseils qu'on vous donne concernent une généralité. Ouais. On ne peut pas aller dans le détail de tout, mais bien sûr, il y a des situations qui sont très spécifiques, très à part, qu'on n'aborde volontairement pas aujourd'hui, simplement par manque de temps, mais on est conscient de cette situation aussi. Et Frank, on va voir ensemble maintenant. Ah ah, Frank, le romantique, on va voir dans la rubrique couple et relations.
Vous allez être déçus.
N'attends pas qu'il soit trop tard pour démontrer ton amour.
Ah ouais, il y aura aucun romantisme.
Oh, attends, finis ta rubrique, on en parle après. Parce qu'on sait que t'es un peu romantique quand même. Hein.
Le peu de pasteur qu'il y a en moi va tout sortir. Ça va sortir. Non, non, non. Mais je dis ça en rien parce que je ne suis pas un pasteur, je suis un évangéliste. Hallelujah.
Hallelujah.
Mais on va donner des conseils aujourd'hui, blague à part, par rapport au couple et au fait de s'aimer mieux et davantage. C'est quelque chose d'important.
Ouais.
Écoutez un peu ces statistiques, parce que j'aime les statistiques dans Bonjour chez vous. Le taux de divorce continue d'augmenter dans tous les pays pour lesquels l'Organisation mondiale de la santé compile des statistiques. Écoutez, on fait juste un historique rapidement, hein, parce que les chrétiens ne sont pas à part là-dedans, mais ça amène une conscientisation par rapport à où est-ce qu'on est rendu. D'une moyenne de 5 % de divorces en 1890, ce taux est passé à 18 % en 1920, à 30 % en 1950. Pour les couples mariés durant les années 70, il y en a qui nous suivent, qui se sont mariés dans les années 70, la probabilité de divorce s'élève à près de 50 %. Et ce, après 1990, c'est au-delà de 67 % des couples vont divorcer. Et là, regardez, 50 % des couples divorcent avant les dans les cinq premières années.
Oh.
Ils vont se divorcer dans les cinq premières années, 50 % des couples. Donc, on voit qu'il n'y a pas de persévérance. Mm-hmm. Et ce n'est pas une notion qui est là encore aujourd'hui. Je fais exprès de vous dire ça parce qu'on fait « wow ». Ouais, en effet. Et là, écoutez bien, parce que c'est de pire en pire. Le taux d'échec des couples reconstitués est de 10 à 20 supérieur les pourcentages du premier mariage. Et les divorces vont arriver encore plus rapidement que dans le premier mariage. Donc là, on voit que si c'était 50 % des chances de divorcer dans le premier couple, premier mariage, bien c'est 60 à 70 % dans le deuxième. Mmh. Et encore plus rapidement que ce qui est arrivé dans le premier. Et on voit en fait qu'il y a vraiment et cette mentalité dans l'Église. On le sait qu'il y a un énorme pourcentage dans l'Église aujourd'hui. Il y a une banalité par rapport à ça. On n'en parle pas aujourd'hui forcément précisément.
Mais je voulais... Pour l'instant, ce n'est pas très romantique.
Non, je voulais dire. Et donc, c'était juste pour amener un contexte à cette rubrique qu'on voit l'importance d'apprendre à bien aimer son épouse ou son époux dans le cadre du mariage, à être intentionnel. De là, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. On est parfois trop spirituel et on oublie qu'on vit sur la terre. Et que Dieu, lui, il nous a créés pour qu'on puisse aimer. Et Éphésiens 5, 25 dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et il s'est livré lui-même pour elle. Et là, monsieur, si ta femme te dit, « Mais toi, tu ne m'aimes pas comme tu devrais. » Et là, si toi, tu lui dis, « Je t'aime comme Christ a aimé l'Église. » Mais elle va dire, « Je ne le sens pas trop. » En fait, tu ne me le démontres pas. Même si dans ton cœur, tu aimes ta femme au point de mourir pour elle, tu dois lui démontrer et elle doit le ressentir, en fait. Parce que sinon, des mots, à un moment donné, c'est bien beau, on dit « je t'aime », mais concrètement, comment est-ce que je le sens? Et ça, c'est une toute autre affaire. Et on le sait parce qu'on le voit dans ces statistiques qui sont là, qu'il y a un sérieux problème d'épanouissement dans le couple. Et on sait aussi que de plus en plus que les années avancent, de moins en moins, j'ai dit au début, les gens sont persévérants. Et là, on doit apprendre à aimer l'autre de la façon dont on veut être aimé. On a déjà parlé des faits des personnalités hein, dans Bonjour chez vous. Mm-hmm. On a parlé de comment les uns et les autres, on est tous différents, on est uniques et on doit même apprendre à parler des fois aux uns et aux autres selon comment la personne est dans sa personnalité. Et Evelyne et Nadine le savent. Ils ne viennent pas me parler n'importe comment, n'importe... C'est une blague. C'est une blague que je fais.
Mais on doit. Avant d'en se prendre
le road trip. Non, surtout pas. Surtout pas.
On le regarde pas dans les yeux directement.
Si on m'arrive dans le cadre du travail avec une liste de 25 tâches à accomplir, là, c'est lourd. Et il faut apprendre à dire, Frank, on va avoir du fun avant de faire beaucoup de travail.
Et on lui donne un point après l'autre.
Et après, oui, c'est ça. Et je peux être avec un café, ça rend la chose fun. Donc, il y a une façon que je sente le truc, que ce soit agréable dans le travail. Et là je parle du couple après. Il faut apprendre à s'aimer. Et là, je ramène les bons vieux langages de l'amour ici sur la table dans cette émission. Parce que il n'y a pas, je vais le dire comme ça, il n'y a pas 10 000 façons d'aimer notre époux ou épouse. C'est-à-dire que dans ces 5 catégories de langage d'amour, on va trouver toutes sortes de sous-catégories, si on peut le dire comme ça. Mm-hmm. Le premier des langages, c'est les cadeaux. Après, toi, tu dois apprendre à savoir comment, monsieur, ta femme veut être aimée. Mm-hmm. Parce que peut-être que toi, tu vas y acheter des cadeaux à tous les semaines, mais ça lui fait absolument rien. Parce que ce n'est pas son langage. Et tu vas vite le comprendre, parce que tu vas dire, « Mais je t'achète des cadeaux qui valent cher à tous les semaines. Mais j'en veux pas de tes cadeaux. » Ce que je veux, c'est du temps de qualité. Et toi, tu dis, mais c'est du temps de qualité parce que ça te parle tellement pas, mais pour elle, c'est ça qui lui parle. Et tu dois apprendre à savoir qu'est-ce qui va lui parler à elle. Parce que tant que tu saisiras pas, tu vas pas saisir cette réalité, tu vas comme frapper toujours à gauche. Tu vas vouloir faire un coup de circuit, tu vas vouloir faire le gros wow! Mais tu vas dire, mais j'ai l'impression de toujours rater d'être à côté de la cible et ça marche pas. Tu vas essayer, mais ça produira peu de fruits. Parce que tu ne parles pas son langage. Et ça, c'est important de le comprendre. Tu dois, même s'il le faut, après cette rubrique, prendre les 5 langages et en discuter ensemble. Mm-hmm. Peut-être que vous avez entendu parler des langages il y a 3, 4, 6, 8 ans déjà, mais qu'ils n'ont pas été appliqués et tu les as oubliés. Et parfois, il y a des choses qui peuvent sembler simples comme ça, qui changent une dynamique de couple d'une façon extraordinaire. Mm-hmm. Après, ça va, une fois que tu parles le langage de l'autre, ça va découler dans tous les autres aspects de la vie. La vie avec les enfants, waouh, on va la vivre avec un sourire beaucoup plus. La vie romantique va être tellement plus intense et passionnée parce qu'on parle le langage de l'autre. L'autre se sent aimé, se sent valorisé, se sent, waouh, il fait un effort pour. Et elle, oh, hallelujah, elle va t'aimer d'une façon extraordinaire aussi. Et donc, il va y avoir, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a des messieurs qui disent, mais vite, dis-moi les langages de l'amour, parce que je veux me faire aimer comme ça. Et donc, il y en a pour qui ça va être les cadeaux. Nadine, est-ce que toi, ça te parle, le langage d'amour des cadeaux?
Non, les cadeaux, c'est pas mon langage.
Evelyne? Voilà. Et vous voyez à quel point, les gars, les cadeaux, souvent, c'est nul, en fait. Et on se prend la tête à savoir quoi y acheter. Moi-même, si c'est pas le langage d'amour de Nadia, j'y achète des cadeaux très souvent parce que moi, ça me fait plaisir d'y acheter des cadeaux et j'aime la bénir comme ça. Mais je le sais que c'est pas ce qui va lui parler. Mais je le fais quand même juste par amour. Et tu peux aller, tu peux faire le kilomètre d'extra, ouais. Je vais le dire comme ouais. Ça, pour même bénir encore plus parce que ça va être un surplus. Amen.
Ben oui, amen.
Deuxième, c'est le temps de qualité.
Bien sûr.
Le temps de qualité. Est-ce que ça te parle, Nadine? Evelyne? Toi, ça te parle?
Mais c'est pas mon numéro un.
C'est pas mon numéro un non plus.
Oh, mais c'est cool! Vous voyez? Je suis pas obligé, moi, rien de me livrer. Je vous fais vous livrer.
C'est clair!
Ah, c'est génial,
ah,
c'est
très vrai.
Ah ouais! Et donc, le temps de qualité. Et parfois, dans le temps de qualité, tu vas devoir apprendre à te... là, je parle aux hommes, hein, mais ça peut être la femme, mais c'est surtout les hommes. Dans les temps de qualité, la femme va vouloir parler parce que des fois, ça parle beaucoup. Et là, tu vas vouloir dire quelque chose ou donner un conseil parce que tu penses que tu as toutes les réponses. Est-ce que je peux juste parler, s'il te plaît? Et là, tu vas faire, ah oui, c'est vrai.
Ouais, on n'a pas toujours besoin de solution.
Et là, tu fais juste... Et là, elle va parler, elle va tout vider son sac et après, tu vas continuer ta vie. Et elle est contente parce qu'elle a eu un temps de qualité avec toi. Toi, tu n'as pas eu un temps de qualité, forcément. Mais tu es bénie parce qu'elle, elle est heureuse.
Mais tu vas l'avoir après.
Et après, tu vas l'avoir après. Amen. Donc, le temps de qualité. Ça, c'est un exemple. Mais vous voyez, aller prendre une marche, être intentionnel, écouter un film drôle, c'est du temps que tu mets à part. Pour ne pas dire, non, je suis occupé, je travaille.
Un petit repas.
Oui, voilà. Mais ça tombe dans les services rendus.
Mm-hmm. Ah ouais, ça dépend si tu vas au restaurant.
Ah, si tu vas au resto.
Oui,
si tu vas au
resto.
Mais là, c'est un doublon, parce que c'est un temps de qualité avec un service rendu à quelque part, ouais. Un peu comme déguisé. Donc, les services rendus, ça, c'est le troisième langage. Est-ce que ça vous parle, Nadine, à fait?
Yes.
Oh, oui, ouais. Moi aussi.
OK, les services rendus, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être un maître constructeur. tu peux rendre toutes sortes de services. Tu n'es pas obligé de bâtir quelque chose. Tu n'es pas obligé de donner quelque chose ou d'être quelqu'un de hyper manuel. C'est souvent, on pense service rendu, si on fait quelque chose, on exécute. Mais ça peut être aider avec les enfants. Ça peut être, je vais t'aider cette semaine en faisant la vaisselle. Je vais t'aider cette semaine en faisant ça. Ah oui, il y avait tel cadre à installer sur le mur. Ça fait des mois qu'on doit le faire. Je vais le faire cette semaine.
Oui, accrocher les cadres.
Ah, voilà. Donc, il y a... Non, mais c'est, tu ris, mais c'est vrai.
C'est vrai,
bon,
oui.
Bon, c'est vrai.
Je suis d'accord.
Donc, tu vois, c'est les services rendus. Le quatrième, c'est les paroles d'affirmation et ou valorisantes.
Mm-hmm.
Ça vous parle?
Oui, moi aussi.
Nadine, elle hésite. Maintenant, il faut la filmer, s'il vous plaît. Oui, Nadine. Les paroles d'affirmation, ça te parle?
Oui, les paroles valorisantes.
Valorisantes,
d'affirmation comme ça. Ça, ben, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. C'est des paroles valorisantes.
Ouais. Des compliments.
Des compliments, des jolis mots.
Des mots doux.
Des mots doux. Mmh. On aime ça.
Ouais. Et des mots doux va amener au cinquième langage d'amour, le meilleur, le toucher physique.
Je t'ai aidé pour ta transition,
là,
t'as vu?
C'est bon, Nadine.
On est tombé chez Frank.
Ouais. Ah, c'est sûr que ouais, le toucher, c'est pas juste où est-ce qu'on peut se l'imaginer, c'est se prendre par la main. Alors qu'on écoute un film, c'est d'être collé ensemble. C'est de juste avant de partir, frotter un peu le dos, dire bonne journée, je t'aime. Il y a juste une dimension de toucher physique qui amène, pour l'homme souvent quand même, hein, je dis pas que tous les hommes c'est comme ça, mais pour beaucoup, ça va amener un sentiment de être assuré, d'être aimé, de se sentir. Voilà, c'est quelque chose qui est là, quand il y a un toucher physique qui peut se faire. Donc, les cinq langages, les cadeaux, les temps de qualité, les services rendus, les paroles d'affirmation valorisantes et le toucher physique. Quel est le langage que tu dois parler à ton conjoint aujourd'hui? Ça, c'est la question que je te pose. Parce qu'en effet, on a parlé de Philippiens, chapitre 2, tout à l'heure, mais je vais ajouter 1 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6 et 7. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour, elle n'est pas envieux. Elle ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Et là, c'est comme dans Philippiens. Il ne cherche pas son propre intérêt.
Oui.
L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc aujourd'hui, au lieu de dire tout ce que l'autre pourrait faire pour toi, même si des fois ça va faire du bien de l'exprimer, cherche qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'autre pour l'aimer davantage. C'est super important et ça démontre une croissance dans l'amour. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir naturel. Ça ne sera pas forçant. Et vous allez juste vivre la vie. Et c'est naturel, ça se fait. Et on s'aime davantage et on apprend vraiment à se connaître comme ça.
Mm-hmm.
Dans les débuts du mariage, des fois, après 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut aborder ça parce qu'on n'avait pas saisi ou on n'avait pas été intentionnel. Mais après 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., là, il faut commencer à entrer dans une phase où est-ce que la vie de couple, c'est le fun.
Ah,
c'est agréable.
Ouais, c'est agréable.
C'est pas obligé et c'est pas supposé même être un combat continuel. Mm-hmm. Je refuse ça, que ce soit comme ça. C'est pas supposé être comme ça. Dieu a fait qu'on soit mariés, heureux, bénis, dans l'amour, qu'on s'aime davantage, de plus en plus, que l'amour s'intensifie. Oh, Jesus! J'allais citer Cantique des Cantiques, mais je me retiens. Et donc, voilà un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui, les filles, pour cette petite rubrique pastorale, très pastorale.
Très pastorale, mais c'est très bien, c'est très, très bien. Merci, Frank. Oui, les langages de l'amour, apprenez à les connaître. Nous, ça fait 15 ans de mariage ce mois-ci,
bravo,
Michael et moi.
Wow.
Et je peux vous dire que quand je regarde en arrière, je me dis, on en a fait du chemin. Mm-hmm. Et je ne me connaissais pas et je ne le connaissais pas au moment où on s'est mariés. Mm-hmm. Aujourd'hui, je peux vraiment le dire. On a appris à se connaître personnellement l'un et l'autre. Et ça fait vraiment toute la différence. N'ayez pas peur des fois de repartir à zéro. N'ayez pas peur de communiquer sur les choses que vous aimez. Demandez, posez des questions. N'ayez pas peur de dire, mais est-ce que ça te fait plaisir quand je fais
de s'humilier.
Ça vraiment.
Même s'il le faut,
absolument. Ouais. Et il y a vraiment moyen, d'être heureux dans votre couple.
Amen.
Alors, demain, on se retrouve. Comment se relever après un divorce? Boum, grosse chute. Bien oui, vous avez entendu les statistiques de Frank. Le divorce, malheureusement, fait aussi partie de la vie des chrétiens, bien malheureusement. Et demain, on va voir comment se relever, parce qu'on en sort souvent très, très meurtri. Et Nadine fera la rubrique « Couple et relations ». Comment se reconstruire après un divorce? Alors, à demain. Merci d'avoir été avec nous. Et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.